ahora que el petróleo es nuestro.
No quiero ver por dioseros enfermos sin hospitales y muchachos y liceos.
Ahora que el petróleo es nuestro.
Pisaron el pabellón, subieron las caraotas, las tajadas y el arroz.
Ahora que el petróleo es nuestro.
Me habló de carne mechiada, porque así le queda al pueblo en la manifestación.
Ahora que el petróleo es nuestro.
El vividor de la OPEPA sigue gozando y al pueblo tiene cuadrada la arepa.
Ahora que el petróleo es nuestro.
¡Viva la soberanía! ¿Qué tal, señor presidente, si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da la gana, pero el pueblo, compañero, tiene un hambre soberana. Señores, a esa comedia la gracia yo no le veo. Que nosotros trabajemos y ellos con el mercadeo.
Ahora que el petróleo es nuestro.
El vividor de la OPEPA sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa.
Ahora que el petróleo es nuestro.
¡Viva la soberanía! ¿Qué tal, señor presidente, si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da la gana, pero el pueblo, compañero, tiene un hambre soberana.
Ahora que el petróleo es nuestro.
Pisaron el pabellón, subieron las caraotas, las tajadas y el arroz.
Ahora que el petróleo es nuestro.
Me habló de carne mechiada, porque así le queda al pueblo en la manifestación. Trabajamos, nosotros lo refinamos, señores, a esa comedia la gracia yo no le veo. Que nosotros trabajemos y ellos con el mercadeo.
Ahora que el petróleo es nuestro.
El vividor de la OPEPA sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa.
Ahora que el petróleo es nuestro.
La, 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 la.
Bonjour à tous et toutes, auditeurs de Radio Galère. Vous êtes bien donc dans cette émission spéciale, deuxième émission spéciale autour du Venezuela que j'anime, Mila Ivanovic, autrement connue comme DJ Mama Loba, et aujourd'hui avec deux invités de marque pour faire le point sur cette situation d'un pays éloigné mais à la fois présent dans les esprits depuis le 3 janvier de cette année suite à l'intervention militaire des États-Unis et qui a un peu replacé le pays sur l'échiquier géopolitique international, mais aussi dans nos cœurs forcément. Nous avions fait donc il y a quelques semaines une émission tournée vers, on va dire, les effets de cette nuit du 3 janvier, en reprenant aussi un certain nombre d'éléments pour tenter de contextualiser ce qui s'était passé, et au regard de tout ce qui s'est passé depuis au moins 20 ans dans ce pays. Voilà, mais donc aujourd'hui, je vais d'abord présenter mes invités. Je suis accompagnée par Jojo, joyeux bordel, Bastida el Negro que comunica.
Buenos días, bonjour. Buenos días, Venezuela. Bonjour, la France. Bonjour, Marseille. Et merci, Mama Loba, encore de m'inviter, de compter sur moi et mon point de vue. C'est un honneur d'être là. Très tôt le matin.
Je t'en prie. Oui, très tôt le matin, c'est sûr, vous qui nous écoutez. Et j'ai aussi le grand plaisir d'inviter une camarade de longue date, Yoleti. Yoleti Bracho, ¿cómo estás?
Bien, bonjour, buenos días. Content d'être là avec vous deux.
Voilà, bonjour, Yoleti était donc de passage à Marseille et j'en ai profité pour l'inviter. J'avais vraiment envie d'écouter aussi ce qu'elle avait à nous dire. Donc Yoleti est docteur en sciences politiques, maintenant contractuelle à l'Université d'Avignon. Et donc en tant que vénézuélienne et qui travaille sur le Venezuela depuis des années, voilà, a
un regard et une perspective qui est intéressante et qui, même au-delà de, on va dire, de son statut de chercheuse et de vénézuélienne, a aussi écrit une tribune, donc juste après le 3 janvier, un peu pour mettre quelque part, remettre au centre, non, les Vénézuéliens et Vénézuéliennes, de fait de ce débat qui dépassait largement les bornes du pays. Et bon, peut-être que on pourrait commencer par ça, nous dire un peu quelle a été ta volonté en écrivant cette tribune.
Oui, en fait, quand le 3 janvier est arrivé, c'est évident que des conversations se tiennent, bon, assez vite sur les événements en tant que tels au Venezuela, mais justement très vite après, il se trouve que j'étais dans différentes discussions médiatiques et voilà, dans ces espaces médiatiques français et pas que français, très vite on partait de Venezuela pour aller très loin, très très loin ailleurs, dans des discussions. Bon, qu'on a tendance à appeler géopolitique, je préfère le terme de relations internationales, mais très vite, ces discussions ont mis de côté concrètement les envies, les besoins, les expressions politiques des Vénézuéliens et Vénézuéliennes, que ce soit au Venezuela même ou ailleurs de par le monde, dans cette grande diaspora de plus de 8 millions de personnes dont je fais partie. Et il m'est semblé pertinent, mais pas qu'individuellement. Je veux dire, cette réflexion était issue aussi de discussions avec des personnes au Venezuela qui étaient aussi en train de vivre lourdement, mais aussi en train de réfléchir sur ce moment, qu'il y avait aussi un besoin de, on va dire, renationaliser la politique, dans le sens où beaucoup de choses étaient en train d'être discutées, décidées, dites ailleurs et en oubliant le fait qu'il y a des volontés politiques souveraines, en fait, au Venezuela, qui étaient à ce moment-là aussi en train d'être attaquées. Et ça m'est semblé, du coup, nécessaire de revenir un peu à cette idée-là. Et je pense que, et pour rebondir un peu à ce que tu disais, Mila, ça a renvoyé effectivement à une position de chercheuse, mais pas que. Ça a renvoyé aussi à ma position, là, pour le coup, de citoyenne vénézuélienne qui est devenue donc franco-vénézuélienne et qui voulait du coup communiquer dans ces deux côtés de l'Atlantique quelque chose comme respectons aussi nos volontés à nous, quoi.
Oui, c'est ce qu'on avait déjà un peu évoqué lors de la première émission, notamment avec toi, Jojo, mais sur ce côté justement de sentir, en tout cas vous Vénézuéliens, Vénézuéliennes, qu'on vous on vous ôtait un peu, on vous soustrayait votre histoire pour la grande histoire, on va dire, de la politique et de la politique internationale. Cette idée que, oui, le Venezuela a été très longtemps au centre de l'intérêt, de l'attention, a complètement disparu de cette attention au cours des derniers, on va dire, peut-être la dernière décennie, en tout cas au moment où vraiment le régime prend des allures, enfin, de verrouillage, d'autoritarisme, de répression très forte. Et bon, donc ça apparaissait par moments comme n'importe quelle nouvelle du monde qui vient chatouiller l'esprit médiatique européen, en français en particulier. Mais donc peut-être, Jojo, tu voudrais revenir sur cette question, sur justement qu'est-ce que maintenant, après ces plusieurs semaines passées, donc après l'onde de choc, on va dire, et qu'est-ce que tu as comme impression sur peut-être le traitement ou qu'est-ce qui se joue pour un Vénézuélien de la diaspora dans ces dernières semaines, quoi.
Écoute, là, quand on s'est vu il y a 3 semaines à l'antenne, je crois que c'était bientôt un mois, on ne comprenait vraiment pas grand-chose. Et je crois qu'un mois après, c'est toujours le cas, je ne comprends toujours pas. Et étant donné en fait que le Venezuela, ça change tous les jours, et on est confronté à avoir des nouvelles, des informations qui tombent au moins 5 fois par jour. Et le panorama change mais extrêmement très vite. Et moi, je m'y perds parce que justement, la diaspora, justement, outre-Atlantique, autrement, on n'est vraiment pas dans le pays. Et on s'y perd. Il faut vraiment s'accrocher pour avoir toutes les informations. Et justement, on en parlera plus tard peut-être. Mais cette nuit, la loi d'amnistie est passée finalement. Et du coup, voilà, on va en parler. Et puis, c'était à minuit, à 11h30, à 23h30. Et puis après, à 18h, c'était encore des nouvelles et des informations. Donc, ça change énormément. ce qui fait en fait qu'on se sente dans un gouffre médiatisé, médiatique d'information en fait. Et moi je suis toujours inquiet. Et depuis qu'on s'est vu il y a quelques semaines, depuis le 3 janvier, comme on disait, et puis je suis inquiet parce que tout va très vite. Et puis j'ai envie aussi de défendre cette souveraineté justement. Et je crois en fait que nos droits souverains sont toujours attaqués et sont toujours dans un état très délicat. Et puis sous prétexte donc d'intervention, sous prétexte aussi d'aide états-unienne, etc. Et voilà, j'en suis là. Et je crois qu'on va en parler aujourd'hui, qu'on a l'occasion, l'opportunité de t'avoir, Violetti, et puis que tu éclaircisses un peu ce panorama-là.
Qu'on l'éclaircisse ensemble.
On le fera ensemble.
Oui, justement, peut-être, donc j'ai commencé l'émission avec ce morceau d'Ali Primera, donc qui est, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, un grand cantautor vénézuélien qui représentait voilà le un peu, c'est un peu le Victor Jara du Venezuela. Et donc avec ce morceau qui s'appelle Ahora que el petróleo es nuestro, donc c'était évidemment un peu une boutade dans la mesure où justement, comme tu le disais Jojo, il y a deux éléments clés de ces dernières semaines dans l'évolution et dans, on va dire, les surprises de cette nouvelle période au Venezuela, qui est donc le vote d'une nouvelle loi sur les hydrocarbures qui renverse complètement, encore une fois, l'échiquier, on va dire, de l'idée de la souveraineté, notamment vénézuélienne, sur ses richesses minières et pétrolières. Et puis, comme tu viens aussi de l'évoquer, le deuxième pan sur lequel on reviendra, c'est donc cette loi sur l'amnistie qui a été votée cette nuit. Alors, peut-être on se fait un point justement sur la loi sur les hydrocarbures. Est-ce que toi, Violetti, quelle est ta vision autour de ça? Peut-être commencer par là.
Oui, peut-être que... Alors, en rebondissant à ce que tu viens de dire, Jojo, sur les choses qui changent, parce qu'en effet, il y a beaucoup de transformations. Mais justement, dans cette période, il me semble qu'il y a certaines transformations qui se stabilisent et justement pas forcément dans le sens d'un grand respect justement de la souveraineté populaire au Venezuela, c'est-à-dire que quelque chose qui s'est stabilisé, c'est la mise sous tutelle là assez clairement, et c'est quelque chose qui a été annoncé depuis le début de cette action. En effet, Donald Trump avait dit à la conférence de presse juste après les attaques de 3 janvier que les États-Unis allaient gouverner le Venezuela. Bon, on peut pas dire que c'est exactement comme ça que ça s'organise, mais le fait est que le gouvernement actuel, qui est une continuité de gouvernement autoritaire, en fait, qui était là précédemment, de fait, il est à la fois mis sous tutelle, c'est-à-dire qu'il est effectivement une installation durable et stable d'une relation, de domination de la part des États-Unis sur ce gouvernement. Mais de la même manière, et c'est là où moi je trouve ça aussi important, cette mise sous tutelle, ça ne veut pas dire pour autant complètement perte d'agentivité, comme on dit, en fait, pour ce gouvernement. Ce gouvernement, il est aussi en train de se accommoder, voire se servir, en fait, de cette nouvelle configuration pour, autant que possible, maintenir un pouvoir aussi stable. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très, très évident à partir de la loi hydrocarbures, parce que c'est donc la loi qui permet en fait d'installer, en tout cas qui projette l'installation d'une relation économique durable et on va dire pacifiée entre guillemets avec les États-Unis. Et je dis pacifiée non pas sans domination, juste en fait sans, avec un moindre conflit, on va dire ça comme ça. Et donc une relation qui, de fait, de comment le business de pétrole s'organise, en fait, elle doit être de long terme. En gros, il n'est pas intéressant pour aucune entreprise pétrolière, qu'elle soit états-unienne ou autre. Et donc, ce n'est pas intéressant pour un gouvernement Trump qui cherche aussi à penser à son avenir, non pas lui en tant que président, mais à l'avenir de ce projet aux États-Unis. Il n'est pas intéressant de s'installer dans son relation avec le Venezuela qui puisse être mis en cause dans 2 ans, 3 ans. La loi d'hydrocarbures elle vient de sceller durablement une relation. En fait, les États-Unis et le Venezuela ont toujours été des partenaires économiques de pétrole. Oui. Mais là, elle vient de réinstaller en fait une relation de grands avantages, notamment pour les entreprises de coût états-uniennes, étrangères en général, mais États-Unis en particulier, au Venezuela. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui se stabilise parce que ce soit Delcy Rodríguez qui gouverne ou, comme certains le souhaitent, María Corina Machado qui gouverne un jour, ça va, ce cadre-là sera certainement gardé à long terme.
Moi, j'aimerais bien avoir ouvrir une petite parenthèse par rapport à cette loi d'hydrocarbures qui avait été modifiée en 2013, si je ne me trompe pas, et qui avait été donc scellé justement intouchable parce que la présence impérialiste, etc., etc. Donc c'était loin, 2013, avait été donc scellé, avait été plus protégé que possible par la part, de la part du gouvernement, etc. Et quelques années après, 12 ans après, par le biais des événements en fait en début d'année 2026, puis elle est modifiable, et puis après votée. Tu dirais quoi par rapport à ça en fait, par rapport il y a 12 ans en fait, quand elle avait été touchée et modifiée cette loi, et ces événements en fait de maintenant,
en fait,
l'application de la loi, je veux dire.
L'arrivée de Chavez au gouvernement, au début du 21e, avait apporté des modifications à l'organisation de l'entreprise pétrolière, ramenant à nouveau des acteurs qui avaient été privatisés à la fin des années 80-90 vers le sillage de l'entreprise nationale. Ce qui, du coup, a ramené aussi à des nouvelles nationalisations. Mais du coup, dans le cadre d'une loi d'hydrocarbures qui, pour le coup, existait depuis les années 70.
Tout à fait.
Alors, les nouvelles modifications qui ont été faites, et d'ailleurs, c'est aussi un des arguments qui, par ailleurs, est en particulier mis en place aussi par le gouvernement actuel, c'est qu'il y a, à partir de la période des sanctions, mais qui est ultérieure, qui est plutôt 2017-2019, tout un enjeu de commencer à négocier, entre guillemets, l'assouplissement des sanctions. Et du coup, ce qu'on dit, c'est plutôt qu'il y a certaines concessions qui sont faites dans cette nouvelle loi, que de fait, le gouvernement Maduro avait déjà commencé soit à faire, soit à proposer dans le cadre de certaines négociations auprès des gouvernements états-uniens. Ce qui, moi, me paraît important, c'est que, en fait, il y a eu régulièrement des formes de modifications dans la relation, des modifications dans les structures de l'entreprise pétrolière, des concessions qui ont été faites, je dirais, entre guillemets, de manière administrative. Mais là, disons que c'est le cadre légal général qui structure, la gouvernance, on dirait, pétrolière au Venezuela, qui vient de changer de manière structurelle, en fait. Et en effet, les lois peuvent s'échanger. Si tu as un congrès ou une assemblée, pardon, qui va dans ton sens, c'est tout à fait possible. Mais moi, ce qui me semble, c'est que, étant donné qu'aujourd'hui, les principales forces politiques qui s'affrontent au Venezuela sont de toute façon, toutes les deux, dans une relation qui se veut stratégique, entre guillemets, avec les États-Unis trumpiens, il me semble que même en cas d'alternance politique au Venezuela, je pense qu'il est probable, en fait, qu'il est possible qu'on garde la même structure dans la relation pétrolière entre le Venezuela et les États-Unis.
D'accord.
Et c'est ça qui me semble potentiellement s'être stabilisé ces derniers temps.
Oui, on serait face finalement à une forme de transition, de régime de transition sans transition ou sans changement véritablement, mais surtout avec... C'est vrai que ces derniers temps, les dernières semaines, donc entre le 3 janvier et aujourd'hui, là où on est un peu stupéfait, c'est justement dans la nature presque substitutive des politiques qui sont mises en place. C'est comme si, d'un coup, le gouvernement vénézuélien prenait la place en partie de l'opposition. Enfin, il y a une espèce de jeu de renversement, en tout cas sur des aspects politiques majeurs, qui... oui, nous font comme dire, en fait, ils sont en train d'adopter une partie des recommandations de l'opposition, tout en maintenant l'ouverture sur un projet qui se perpétue. Enfin, c'est vraiment aussi ça l'idée, c'est que on est malgré tout, et on y reviendra sur la question de la loi sur l'amnistie, c'est que oui, certes, on fait des concessions, mais en même temps, rien ne change dans le fond. On n'est pas en train de remettre tout à plat, on n'est pas complètement en train de revenir de manière critique sur le processus de ces 25 dernières années, autrement dit la révolution bolivarienne. Enfin, on se raccroche encore à cette identité. C'est ça qui est assez fou. Alors, après, dans ce jeu justement très stratégique, d'ailleurs, où nous, en tant que public, on peut observer des choses qui étaient absolument improbables et impossible à imaginer il y a quelques mois de ça. Typiquement, je pense à la visite et la réception de grands dignitaires de la politique américaine, notamment le chef de la CIA, notamment hier ou avant-hier, le commandant du Commando Sur. Le
Commando Sur,
c'est comme le ministre de l'armée, mais sur l'espace sud, donc tout ce qui est la région caribéenne, et ce qui d'ailleurs avait été au départ la grande confrontation autour de la présence de l'armada américaine dans les Caraïbes et tout ce qui a précédé en fait le 3 janvier, qui était déjà la mise en place d'une forme de coercition autour notamment de l'idée qu'il y avait une lutte à mener contre le narcotrafic et que les États-Unis, en gendarme nécessaire, arrivait et faisait le travail qu'évidemment les Vénézuéliens ne faisaient pas, mais en plus, selon le discours américain, qu'ils promouvaient. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un changement complet et que c'est pour ça que cette lecture est compliquée en fait à mener. Même en tant que politiste, quand on a étudié, on est perdu parce qu'on se dit « mais quel est ce jeu de chaise musicale où finalement… » Qui est qui et en même temps, qui est qui? Et en même temps, le panorama général, en tout cas de la structuration du pouvoir maduriste, en tout cas ce qu'il en reste, reste peu ou prou le même.
Je me permets juste aussi, pour rebondir à ça, et en fait, c'est pour ça que je pense qu'un enjeu aussi important, c'est quand on analyse la période de la révolution bolivarienne, c'est de faire des périodisations, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas la même à tout moment. 25 ans, les 25 ans ne sont pas des 25 années de la même, même processus, la même aventure politique, on va dire. Et une autre chose aussi qui me paraît importante, c'est que de fait, ce gouvernement qui était devenu donc un gouvernement autoritaire, il n'était pas autoritaire seulement politiquement, il est devenu autoritaire économiquement. C'est-à-dire qu'en fait, il est devenu un gouvernement qui a déprotégé complètement les travailleurs et travailleuses vénézuéliennes, qui a complètement détruit du coup le droit de travail, qui a complètement détruit le salaire, qui a créé des zones économiques spéciales en fait, dans lesquelles du coup l'extraction d'or, notamment dans les zones de l'Amazonie, etc., en fait, sont des lieux où, en fait, il n'y a vraiment pas de cadre qui, à la fois, protège les travailleurs, mais surtout pas protège la souveraineté vénézuélienne, dans le sens où les revenus qui sortent de là, en fait, s'en servent assez peu, finalement, dans l'économie politique nationale. Et ce que je veux dire par là, c'est que, finalement, moi, ce qu'il me semble aussi voir, c'est une forme d'approfondissement de quelque chose qui a été aussi une très lourde libéralisation de l'économie vénézuélienne, qui a été aussi en fait des très très lourdes politiques aussi d'austérité qui ont été payées en fait par les Vénézuéliens et Vénézuéliennes au quotidien, parce que effectivement la période qu'on se rappelle, la faim, les gens qui ne peuvent pas aller en fait qui trouvent rien dans les hôpitaux et tout ça, c'est pas fini,
les gens qui faisaient les poubelles, les gens qui étaient vraiment dans la crise en fait.
Exactement. Et en fait, voilà. Et du coup, moi, ce qui me semble aussi voir, si on pense spécifiquement à ce qui viendra être cette gouvernance pétrolière, c'est que, et c'est ce qu'ils disent actuellement les syndicats au Venezuela, c'est pour le moment, cette nouvelle loi ne représente aucune garantie de modification de la condition de travail des travailleurs et travailleuses au Venezuela. Et ça veut dire pour moi aussi que du coup, c'est rallié avec l'impérialisme états-unien dans son économie libérale. Mine de rien, en fait, c'est un approfondissement ultime d'un processus effectivement qui vient déjà en fait depuis un certain temps, qui est celui d'une élite économico-politique qui finalement a commencé à gérer le pays comme son hacienda, comme son donc sa terre en fait, c'est comme des propriétaires terriens et dans lesquels ils sont trouvés juste pour le dire de manière un peu excessive, mais on vient de trouver leur meilleur partenaire pour approfondir ce processus là.
Et ça serait plus intéressant de dire qu'il vient de reconnecter avec son meilleur partenaire, en fait, parce que depuis la découverte du pétrole au début du XXe siècle, c'est un peu cette invasion américaine, états-unienne, en fait, voilà, qui s'est installée au pays. Mm. Et jusqu'à arriver à la boutade dont tu parlais de la chanson de Ali Primera, Ahora el petróleo es nuestro, bah justement, ça parle aussi de la nasalisation de la part du président Carlos Andrés Pérez, non, dans les années 72, si je ne me trompe pas de la date.
74.
Pardon, je n'étais pas encore né.
T'étais pas loin.
En tout cas, oui, c'est sûr que...
Donc, du coup, c'est renoué avec ce partenaire, comment tu dis, Joëlle, c'est ce partenaire historique, en fait, du point de vue pétrolier et de l'industrie vénézuélienne, en fait, par le biais du pétrole, évidemment.
Mais qui, du coup, forcément, produit des effets lourds à la fois sociaux et politiques. C'est-à-dire que, quand on s'intéresse, en fait, à l'histoire vénézuélienne post-pétrole et qu'on s'intéresse surtout en fait à l'histoire comment s'organiser la société vénézuélienne, en fait comment s'organiser la consommation, en fait quels sont les produits que sont devenus les produits phares en fait de quotidien au Venezuela. Bah, en fait tout ça est très relié au fait que pendant le début de l'extraction pétrolière, quand les travailleurs états-uniens arrivent en fait au Venezuela et qu'ils sont installés dans des gated communities, dans des résidences fermées, en fait, on les envoie aussi avec leur propre, on va dire, supermarché, pour le dire très vite, dans lesquels il y a une série de produits qui leur sont assurés pour leur consommation, pour les installer, on va dire, confortablement.
Ils
ne
sont pas du tout les mêmes produits locaux qui consomment les Vénézuéliens.
Sauf que les produits de ces commissariats sont devenus finalement ensuite les grands produits de la consommation vénézuélienne, en fait. Et c'est-à-dire que, bon, là, je prends cet aspect qui est entre guillemets anecdotique, mais pas tant que ça, pour dire aussi que cette relation, et donc la suite qui viendra aussi avec cette nouvelle loi d'hydrocarbures, c'est aussi quelque chose qui structurera pas seulement notre économie, mais qui tend à structurer nos relations politiques, nos relations sociales, etc. Et donc, on peut effectivement s'imaginer dans cette transformation qui en est une, mais qui n'en est pas une, bref, en fait, effectivement, pendant quelques années, la révolution bolivarienne, c'était aussi, d'une certaine manière, un projet qui révindiquait l'idée de faire lien plutôt vers le sud, vers les Amériques, etc., et éloigner, d'une certaine manière, du coup, cet impérialisme politique, économique et culturel de longue date que les États-Unis ont imposé, pas seulement au Venezuela, mais dans la région.
Dans la région.
Bah, on y revient.
Peut-être revenir juste pour terminer sur la question de la loi sur les hydrocarbures, c'est de rappeler donc d'une certaine manière, enfin quand on parle justement de l'agissement des États-Unis sur maintenant ce moment vénézuélien, c'est qu'en fait il y a aussi des enjeux très pratiques et pragmatiques de la part des États-Unis qui sont pas forcément d'ordre simplement et strictement impérialiste, c'est que ils considèrent que le Venezuela leur doit de l'argent suite à l'expropriation notamment de Chevron, à ces années justement où l'idée d'un modèle retombait sur la question de la souveraineté nationale. Et donc, qu'il y a cette dette et qu'il faut solder cette dette. Et que donc, un des aspects de cette loi, c'est comment à travers la réactivation de l'industrie pétrolière sous contrôle américain, les Américains vont pouvoir récupérer une partie. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe sur les ventes là, qui ont lieu ces quelques semaines, c'est on prend le pétrole, on le vend, on prend l'argent et on le garde. Au départ, c'était fiduciaire et c'était au Qatar. Aujourd'hui, c'est aux États-Unis. Oui. On le garde en banque et vous, on vous donne... En gros, l'argent de poche, c'est presque ça.
C'est
on vous donne, voilà, ça, et vous vous débrouillez. Bon. Et je sais, j'ai écouté une émission hier qui parlait justement d'un côté très chaviste, mais pour essayer, parce qu'imagine les personnes proches du gouvernement, comment elles arrivent à justifier, enfin, il faut vraiment rentrer dans une forme de schizophrénie. Mais donc, on disait, oui, quand il y a eu l'annonce, notamment de cette vente de pétrole à Israël, qui a tout d'un coup complètement bouleversé. Et en fait, oui, non, mais c'est pas tout à fait comme ça. C'est qu'en fait, ils décident de prendre un bateau, les Américains l'envoient en Israël. Donc, c'est pas nous, en fait, qui envoyons le pétrole en Israël. Enfin, voilà, on en est à ce point-là, c'est-à-dire de finalement d'une forme de dépossession presque totale de ce qui était ben et ce qui est toujours la colonne vertébrale de l'économie vénézuélienne. Et cette question de l'excrément du diable qui a toujours été au centre, on va dire, en tout cas d'un débat autour de la dépétrolisation de l'économie vénézuélienne, ben revient aujourd'hui en pleine face, excusez l'expression, mais voilà, et on est vraiment très loin d'imaginer ce que va pouvoir être la suite. Peut-être, comme tu le disais, Yoletti, on va vers une normalisation d'un modèle, voilà, en effet, de protectorat économique, politique. On ne sait pas encore, parce que c'est ça aussi, la lecture est très compliquée, oui. Dans la mesure où on a l'impression qu'il y a des discours, en fait, qui se superposent, mais sans avoir de rapport réel. On n'a pas d'écrit sur ce que sont, en fait, le cadre des négociations entre... Voilà, c'est ça. Donc, on est toujours un peu à essayer d'imaginer ce pourquoi le gouvernement agit de telle manière, ce pourquoi les Américains agissent de telle manière. Voilà, mais sans avoir, finalement, un accord cadre.
Non.
Il n'y a pas d'accord cadre.
De toute façon, je pense qu'on ne l'aura pas, très honnêtement. Non, par contre, justement, dans ce que tu disais spécifiquement sur la gestion des ressources, il y a des choses qui ont été dites assez clairement. Et pour le coup, c'est Marco Rubio, donc le secrétaire d'État états-unien, qui, interviewé par le Sénat, effectivement nous explique que, en somme, le gouvernement vénézuélien est censé leur soumettre aux États-Unis, donc à eux, un budget. En somme, sur les dépenses prochaines, en fait, il a parlé d'un temps d'un mois, bon bref, et que c'était à eux du coup d'approuver les dépenses ou pas, et donc d'envoyer les fonds, en disant quelque chose comme, en effet, on pouvait pas s'installer pour aller gérer les moindres petites affaires de l'administration vénézuélienne, en fait, donc, concrètement, on le fait à travers ce gouvernement qui semble se porter très bien, hein, en fait, voilà, qui nous écoute et qui nous obéit et que tout va bien. Mais en fait, je veux dire, effectivement, on n'a pas un cadre d'accord très précis, mais une série de déclarations qui nous semblent, voilà, nous donnent des informations pour nous dire, en effet, actuellement, en fait, c'est ça qui est particulier. Je ne faisais pas particulièrement confiance au gouvernement Maduro de gérer le budget de la nation, mais je ne fais pas non plus particulièrement confiance à Marco Rubio pour le faire non plus. Et dans ça, et pour revenir aussi, si je me permets de faire un lien du coup avec la tribune que j'ai publiée dans Le Monde, c'est que c'est ça aussi l'enjeu. C'est qu'en fait, entre le pire des deux mondes, en fait, les Vénézuéliens et Vénézuéliennes, pour le coup, pour le moment, leur volonté politique, dont celle qui a été exprimée du coup pendant les élections 2024, en fait, tout ça n'est pas là, en fait, ça a disparu. Oui. La discussion vraiment n'est pas là. Et ça, je trouve ça très grave.
Ouais. À tel point que justement, pour rebondir sur la loi sur l'amnistie, personne ne connaît le projet a été traité donc à l'Assemblée nationale, mais personne n'en parle. Je veux dire, le peuple ne connaît pas les articles, on n'a pas le droit de la lire, pas le droit, mais...
On fait un point là-dessus, puisque ouais, le temps court et il nous vous reste, donc on est à la moitié de l'émission et c'est vrai qu'on pourrait parler de chaque aspect de manière vraiment beaucoup plus importante. Donc, passons maintenant à cette loi sur l'amnistie qui a aussi complètement stupéfait, je ne peux pas dire d'autres mots que celle-ci, quand la décision, en tout cas la déclaration a été émise qu'il y aurait une loi d'amnistie. Bon, moi je parle donc de deux points de vue, en tant que politiste, cherche sur le Venezuela, mais aussi en tant que membre de la coalition féministe contre les violences judiciaires au Venezuela. Donc j'ai un point de vue qui est extrêmement précis, en tout cas d'intérêt sur la question judiciaire au Venezuela. Et quand Delcy Rodriguez fait l'annonce qu'il va y avoir une loi d'amnistie, d'abord tout le monde est pris de court, ah bon? Alors certes, on sait qu'il y a eu des libérations, des libérations, des escarcellations, enfin le terme est important puisque c'est pas des libérations pleines, c'est-à-dire on fait sortir des gens de prison, mais on ne les libère pas forcément des charges qui pèsent sur eux en termes judiciaires. Donc ça avait commencé et on savait pas c'était comme ça, il y avait pas d'accord cadre. On va libérer des prisonniers politiques et c'était au compte-gouttes. Et alors les ONG disaient mais non, le gouvernement annonce tel chiffre, c'est faux. Enfin bref, c'était une bataille sans nom. On savait au compte-gouttes chaque jour, ah ok, ils ont libéré de 20 personnes, ah il y a 80 personnes. Bon. jusqu'à donc ce moment où Delcy Rodriguez, et qui ne prend pas à n'importe quel moment, en fait, la déclaration se fait au moment de l'ouverture annuelle du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire devant toutes les autorités et les magistrats et les hauts magistrats de la fonction judiciaire au Venezuela. Et surtout, ce qu'elle dit, elle dit, voilà, nous avons besoin de cette loi d'amnistie pour réparer les blessures commises depuis 1999. Et ça, boum, enfin, c'est un énorme... Alors, je ne sais pas comment on peut le lire, mais en tout cas, à ce moment-là, c'est OK, en fait, elle est en train de faire la critique de ce qui s'est passé durant, enfin, en tout cas, depuis le début de la révolution bolivarienne, ce qui n'était jamais arrivé. Bon. Donc voilà, ça c'est l'introduction. Ça fait 10 jours, 2 semaines, je crois que donc, cette déclaration a été faite. Le lendemain ou le surlendemain, on avait un projet de loi. Et là, tout le monde a commencé à se dire « Non mais attends, il va falloir que chacun, chaque organisation puisse placer en fait un certain nombre de desiderata au milieu de cette déclaration générale d'amnistie. » Et ça a été aussi un peu la foire d'empoigne. Chacun est allé de sa proposition de loi. 2 jours plus tard, première discussion approuvée en première lecture donc, à l'Assemblée nationale. Et on se dit « Mais attendez, c'est pas possible. » Enfin, ils font les choses tout seuls. Et finalement, il y a eu quand même un moment de rétrocession, c'est-à-dire elle devait être adoptée en deuxième lecture le jour suivant. Ça n'a pas été le cas, ils ont reporté. Bon. Et finalement, ils ont ouvert aussi quand même un minimum le débat, donc à travers notamment l'Assemblée nationale qui a permis la réalisation de réunions avec l'ensemble des acteurs et actrices, notamment des ONG, notamment d'anciens prisonniers politiques, pour justement établir les bases d'un débat. Il y a eu la création d'une commission pour la cohabitation démocratique et la paix, qui s'est parallèlement aussi ouverte pour mener une consultation publique sur la question de l'amnistie. Bref, il y a eu quand même de gros chamboulements qui ont eu lieu jusqu'à donc cette nuit où là la loi était adoptée. Bon, peut-être Yoletti, un mot là-dessus.
Peut-être la première chose, c'est que en tout cas un des questionnements qui moi m'est venu assez vite dans ce processus que Mila vient de décrire très bien, c'est quels vont être du coup les cadres juridictionnels justement pour appliquer cette loi. Parce que, bon, en tout cas pour moi, assez vite est venu du coup le modèle colombien, dans lequel en fait il y a une juridiction spécifique qui permet éventuellement de traiter des cas et créer une forme de justice à part.
Pour les accords de paix super.
Voilà. Mais bon, il me semble que ce n'est pas question de tout ça. Et que du coup, il y a une loi d'amnistie, qui de fait du coup est censée couvrir une période, mais c'est pas vraiment la période entière de 1999 jusqu'à là, c'est des événements précis de cette période, du coup, qui ont été prédéfinis, qui sont effectivement des événements de conflit, mais en fait, forcément, quand l'on définit cette tranche, ou en tout cas ces variables-là, forcément, il y a des gens qui restent dehors. Forcément, il y a des événements qui sont pas pris en compte. Et en fait, il y a des trous dans la raquette, quoi, pour le dire très vite. Oui. Ça pourrait appeler plutôt à avoir, par exemple, ça, une structure juridique dans laquelle faire appel à la loi, en fait, essayer de redéfinir ses contours. Non pas seulement par la loi, mais par la jurisprudence. Mais pour le moment, on n'a pas de structure cadre à nouveau pour savoir comment elle va être construite et comment elle va être appliquée. Et voilà, la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, à part quel est le cadre juridique de son application, c'est qu'en effet, il y a des luttes de définition sur qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui ne rentre pas.
Qui peut en bénéficier, qui ne peut pas en bénéficier.
Et par exemple, et là, c'est quelque chose, à nouveau aussi à partir des mes yeux ou de ma vision, qui n'est pas seulement celle de chercheuse, mais aussi de quelqu'un qui fait partie de cette diaspora vénézuélienne, se pose la question de le retour. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des nombreux acteurs politiques, des divers bords politiques, en fait, qui ne sont plus au Venezuela, qui ont dû quitter le Venezuela effectivement et précisément pour des raisons politiques, et à qui, pour le moment, cette loi n'offre pas des garanties. Et en fait, on a tendance à... et là, je me permets aussi une clarification aussi sur mes positions politiques, bon, qui me semblent de toute façon assez évidentes depuis longtemps. Mais, donc, je suis une femme vénézuélienne de gauche. Et en fait, je m'inquiète du coup du jeu politique général dans le pays, mais je m'inquiète aussi très précisément aussi des voix qui sont de gauche mais qui sont à l'opposition, mais qui parfois sont peut-être moins visibles, parce que moins grandes, moins structurées, moins visibles à l'étranger, etc. Et si en effet, il y a une opposition traditionnelle qui a effectivement des exilés politiques, et ils sont très nombreux, nombreux, et ça c'est certain, et il y a une discussion à avoir là-dessus, en fait, il se trouve qu'il y a aussi des gauches vénézuéliennes qui ont des exilés politiques. Et il me semble que ces acteurs-là, en fait, rentrent aussi assez peu dans ces débats. Et le fait est que, bon, que ce soit pour les uns ou pour les autres, là, il y a tout un enjeu de... Si on prétend un projet politique d'avenir pour le Venezuela... Et que cette loi d'amnistie, en principe, est censée projeter, hein, voilà, nous donner une sorte de cadre d'un certain projet politique pour le Venezuela, imaginons, de pacification, de conciliation, bon bref. Il est très difficile d'imaginer ce projet sans prendre en compte donc, les 8 millions qui sont à l'étranger, oui. Et ceux et celles qui, dans ces 8 millions, sont de fait aussi touchés par un exil politique qui existe, en effet. Et voilà, ce qui m'inquiète, en fait, dans cette idée de la réconciliation, c'est que très difficile de construire une réconciliation au Venezuela, sans prendre en compte, voilà, tout cet aspect-là. Bien sûr, après, il y aurait plein d'autres détails, en fait. Mais je pense à ces deux détails, juridiction et prise en compte de l'exil politique.
Alors, justement, je l'ai lu rapidement là en arrivant à la radio, parce qu'on est toujours pris de court par l'actualité vénézuélienne. Mais justement, il y a un point qui n'était pas a priori prévu sur le projet de loi. C'est le point où des personnes demandant l'amnistie à l'étranger pourraient le faire via un avocat et notamment via les circuits consulaires. Ce qui est important, parce que c'est aussi une reconnaissance. Il y a beaucoup de gens qui se sont exilés pour raisons politiques ou en tout cas... dans des conditions de persécution judiciaire et donc ils pourraient quand même avoir recours. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup, là encore, il faudrait que je revoie le texte plus posément, mais c'est cette idée en fait qu'au départ, l'amnistie pour moi était mise en place par le Venezuela comme un outil, encore une fois, de décision très arbitraire. C'est-à-dire, on va décider, même si on l'encadre dans une loi, mais c'est quand même nous qui allons dire voilà, qui rentre, qui rentre pas. Alors que là, il s'agit quand même d'une idée où les gens peuvent eux-mêmes proposer en fait, leur amnistie qui sera, on l'imagine, décidée alors, par cette commission parlementaire. Alors là, on revient sur la question justement d'une entité qui devrait être évidemment autonome, indépendante. Nous, on l'a appelée la commission de la vérité judiciaire, parce qu'en plus, il y a vraiment toute cette question de savoir quel chef d'inculpation a été choisi, pour quel motif et quels sont les chefs d'inculpation excluants, notamment au regard de cette nouvelle loi. Et que, pour vous le dire, parce que les gens qui ne connaissent pas forcément le contexte, on va dire qu'il y a beaucoup de chefs d'inculpation d'abord qui ont été mis sur des questions terroristes, donc d'homicide, sur de faux rapports, de faux témoignages ou de fausses preuves. C'est typique d'un système judiciaire complètement défaillant et absolument dépourvu de l'idée de séparation des pouvoirs, qui est l'instrument en fait de l'exécutif. Donc voilà, le moment en tout cas nous donne la possibilité symboliquement déjà de pouvoir opérer un gros changement par rapport à ce qui était jusque-là ce verrouillage absolument efficace du judiciaire au Venezuela.
Et par ailleurs, et en fait, une chose qui a été intéressante ces derniers temps, et c'est là où je pense que on peut, en tout cas moi personnellement, ça me fait aussi avoir encore de l'espoir vis-à-vis des capacités en fait des Vénézuéliens et Vénézuéliennes en termes de mobilisation, c'est que mine de rien, quand cette discussion a commencé à s'ouvrir. En fait, précisément, la petite brèche dans laquelle s'est engouffrée finalement les mobilisations des Vénézuéliens et Vénézuéliennes, c'était la question de la libération des presos políticos, donc la sortie de prison des prisonniers politiques, et la loi d'amnistie. Et c'est, en fait, pendant une période, parce que voilà, on vient d'un Venezuela où on sait que juste sortir dans la rue avec deux, trois pancartes, ça se fait pas, ou ça se fait très peu. En fait, on a eu aussi ce moment-là où s'est ouverte une brèche.
Oui.
Et en effet, il y a eu des fortes mobilisations, bien sûr pas à l'échelle de ce qui s'est passé après les élections 2024, mais quand même, des fortes mobilisations.
Mais on en a vu, c'est vrai. On en a vu et on en voit encore à petite échelle, comme tu dis, et ça fait, c'est vrai que ça fait quelque chose de...
C'est très puissant, en fait.
Ouais, c'est puissant, c'est petit espoir, c'est intéressant.
Voilà.
Et moi, je m'intéresse plutôt à ce côté aussi sociopolitique et de voir, en fait, les manifestants et les familles, en fait, des prisonniers, prisonnières politiques qui sont devant les prisons à faire de la force, justement, et à parler et tout. Et je dis, voilà, c'est là le vrai changement, en fait, tu vois. C'est le véritable changement, c'est le peuple qui retrouve aussi une petite porte, comme tu dis, dans ce gouffre-là, pour pouvoir parler, pour pouvoir manifester et pour pouvoir faire valoir de leurs droits, quoi, justement.
Et la libération de la parole, ça, c'est extrêmement important et c'est ce qu'on a pu vraiment constater ces dernières semaines. Moi, je le vois vraiment... Enfin, et c'est ça qui est, d'une certaine manière, un peu galvanisant, parce que ça fait du bien quand, justement, on a été pendant des années dans une espèce de vide où personne ne voulait parler, ou parce que chacun se rendait sur ses positions dans une forme de très grande adversité, que ce soit d'un côté ou de l'autre, avec tout ce que ça peut engager en termes de justification. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que là, tout d'un coup, on pouvait et puis se réorganiser, se reparler entre collectifs. Enfin, il y a vraiment des choses qui, malgré tout, voilà, sont quand même plutôt de bonne aloi. Alors, on n'a plus que 15 minutes, donc on va faire une petite pause musicale pour justement recevoir. Alors, on a déjà un appel prévu de Mégane, c'est ça? Alors, je vais redonner le numéro pour celles et ceux qui souhaiteraient. Je ne sais pas si on aura le temps de prendre tout le monde, mais voilà. 04 91 08 28 15. Je répète, 04 91 08 28 15. Et on se retrouve juste après, compañero de Grupo Madera.
Vamos a unos comerciales y ya regresamos.
compañero Grupo Madera, grand groupe de San Agustín, c'est un morceau qui avait été choisi par
El Negro que Comunica.
Negro que Comunica, exactamente. Et donc pour cette pause qui devait normalement mener à un appel ou à des appels, bon, nous n'en avons pas et c'est quelque part très bien parce que sinon on serait un peu à courir derrière le temps. Si Megan souhaite appeler sur WhatsApp, c'est possible aussi, comme ça tu la passeras directement. Alors peut-être autour de cette question sur la loi d'amnistie et de ce qui se joue aussi dans la diaspora vénézuélienne, est-ce que tu as des choses à formuler, Jojo?
Moi, j'aimerais bien parler un petit peu aussi, à donner un peu un brin d'espoir à nos compatriotes vénézuéliennes et vénézuéliens. Et dans ce contexte politique, sociopolitique, et national et international aussi. Et en sociologie, j'ai découvert qu'il y a un concept, en espagnol qui s'appelle la desesperanza aprendida, qui se traduirait plutôt par le désespoir appris ou le manque d'espoir appris, institutionnellement parlant. Ça veut dire les régimes, et en l'occurrence un régime dictatorial, si on peut avouer que c'en est un déjà, enfin, que ça en était un. Mmh. Et, on nous habitue justement à perdre cet espoir, on nous habitue, on instrumentalise le désespoir justement. Et là, avec ce réveil, par le biais d'une attaque états-unienne, d'une invasion sur notre territoire, et on se rend compte justement, Violetti, que le changement, il est toujours là et que c'est toujours possible. Que, comme on disait tout à l'heure avant la chanson, avant la pause, qu'on se rend compte qu'on peut toujours se mobiliser, sortir dans la rue, lever une ou deux ou trois pancartes, puis lever sa voix et aller manifester. Et puis après, les médias, on n'en a pas parlé, les médias, les chaînes privées, en fait, qui commencent aussi à communiquer, à faire passer des informations en fait dans le bulletin, les JT locaux et nationaux. Et mon opinion, ça serait plutôt ça, en fait, cet éveil de pas le perdre justement, et que cet élan de prise de parole et prise de liberté et souveraine aussi, qui nous ont aussi qui sont et du point de vue constitutionnel, sont aussi inscrits sur notre constitution. Je dirais plutôt de ne pas perdre espoir, de récupérer justement cet espoir et puis cet élan de communication, d'aller dire les choses, de manifester, parce que c'est un droit et c'est le nôtre. Et on a tous voté pour ces droits en 99 quand on a voulu justement changer la constitution nationale. Et j'aimerais bien en fait que ce désespoir appris et change, ne soit plus appris et qu'on puisse aussi changer. Et puis après, les gens qui ne veulent pas parler, parce qu'on parle aussi des diasporas à l'international, il y a beaucoup de Vénézuéliennes et de Vénézuéliens qui sont ailleurs, qui sont dans d'autres pays, qui se taisent, qui veulent pas parler, parce que on a aussi peur encore à des représailles et tout ça. Et j'ai des amis, des proches dans mon entourage en fait, qui ont peur justement de lever sa voix, parce que on ne sait jamais, comme on nous a dit. Et voilà, j'aimerais bien que ça change en fait, qu'il y ait cette répression transnationale change. On a Mégane?
Non, on n'a pas Mégane. On a un auditeur. Bonjour.
Bonjour, je suis Carlos Vénézuélien. Je connais un peu Mégane qui m'a...
Carlos, qui m'a passé... Carlos.
Oui, voilà.
Je t'en prie, Carlos.
Hola,
oui.
Carlos.
Muy bien.
Hola, hola.
Ya tomaste café?
On t'écoute, on a peu de temps, donc si tu peux être bref, ce serait cool. Oui. Merci.
Je voulais demander, enfin, je pense à toi, Jolety, mais tout le monde peut répondre. Je ne vais pas faire des études parce que j'ai vu que les chercheurs sont politiques vénézuéliennes. Et je voulais savoir ce que, enfin, comment les choses se passent, c'est pas idéal pour nous. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Ce qui s'est passé le 3, ça donnait un peu d'espoir. Et ça a été un peu une façon bien de voir Maduro capturé. Mais en même temps, voilà, comment ça s'est passé, peut-être que c'est pas la façon la plus jolie, on va dire. Il y a des polémiques, mais en même temps, ce qui s'est passé avant, c'était pas bon non plus. Donc qu'est-ce qu'elle penserait toi, du coup, qu'est-ce que tu penses que serait une chose intéressante ou une bonne chose pour le Venezuela? Comment ça devrait se dérouler une transition au Venezuela pour devenir un pays normal, un pays démocratique ou peu importe comment vous voulez l'appeler, mais un pays fonctionnel?
Ok. Alors, merci beaucoup, Carlos. On va répondre à cette question. Donc, Yoleti, comment... c'est une sacrée question. comment faudrait faire les choses? Alors, si Delcy nous écoute...
Parlons-en.
Écoute hashtag. Bien, franchement. Vas-y, Yoleti. Hein, vamos.
Bon, déjà, merci, Carlos. Alors, bon, la première chose que je dois dire, c'est que justement, à cette question, on est nombreuses et nombreux, et donc nous comptons nous tous ici dans au studio à travailler dans cette idée-là, c'est-à-dire qu'on se pose ce type de questions, et selon nos branches de travail, nos les aspects sur lesquels on est expert ou pas, bref, en gros, on a des propositions. Oui. Bon, c'est juste pour dire, voilà, diversité d'idées autour de ça. Mais en tout cas, moi, ce qui me semble là très important, c'est que n'importe quoi qui viendra en fait pour le Venezuela, ce qui est important, c'est que les Vénézuéliens et Vénézuéliennes puissent s'exprimer sur voilà, leur avenir politique, économique, etc. Et mon inquiétude, mais c'est intéressant ce que tu as dit, Jojo, sur le désespoir appris. En fait, je crois qu'en tant que politiste, j'ai tendance aussi à rester dans cette idée-là. C'est-à-dire que moi, actuellement, j'ai pas pour le moment ce qu'il me faut entre les mains pour dire qu'on a déjà à la main des garanties démocratiques, oui. Qu'on a déjà des garanties de transition qui peuvent bénéficier les Vénézuéliens et Vénézuéliennes. Par contre, et il se trouve que je suis voilà, dans des espaces de discussion avec d'autres chercheurs et avec des gens qui cherchent à avoir de l'incidence en fait, au Venezuela, et tout le monde, peut-être la bataille qu'on a contre ce désespoir a pris, c'est de se dire que dans cette brèche dans laquelle là on est, on peut apporter nos idées, on peut apporter nos options et on peut essayer de proposer effectivement des choses concrètes. Et donc, sans pouvoir dire qu'est-ce qu'il faudrait pour le Venezuela en général, ce que je peux dire, c'est que récupérer la capacité pour les Vénézuéliens et Vénézuéliennes à s'exprimer sur leur avenir. En fait, je parle des choses très concrètes, c'est-à-dire que voter soit en fait quelque chose qui donne des résultats, que aller manifester dans la rue soit quelque chose qui soit pris en compte, bon, etc., etc. Pour ça, il est clair que on va devoir toutes et tous passer par un processus dans lequel se construisent des accords politiques pour l'avenir. Et ça nécessite, en fait, parce que c'est ce qui s'est passé dans d'autres contextes de transition, ça nécessite, en fait, de créer des garanties à la fois pour celles et ceux qui ont été dans la situation de victime, mais qu'on le veuille ou pas, ça exige des garanties, entre guillemets, pour celles et ceux qui ont été ceux qui ont produit les victimes, ceux qui ont fait la violence. En fait, je parle là de la violence en général, violence politique, oui. Violence économique, oui. Violence sociale, violence concrète. Une loi d'amnistie, en principe, est censée faire ça. Mmh. En principe.
Sur les deux pans, c'est-à-dire autant la libération que aussi la pénalisation de celles et ceux qui ont participé.
Voilà. Sans oublier aussi que dans la région d'Amérique latine, il y a eu aussi des lois d'amnistie, lois de pardon et lois d'oubli aussi. En fait, où on a fait table rase, on oublie tout, t'inquiète, le méchant, voilà, on te pardonne tout et on reprend et tout ça. Hein, donc,
Après, il y a des limites oui. À ça. C'est-à-dire qu'il y a des limites en termes de droit international. Qui, voilà, on ne peut pas dépasser, et des engagements, en fait, que la nation, dans sa constitution, prend aussi avec le système, en fait, voilà. Voilà, international. Donc, très bien. Mais la difficulté, c'est effectivement de nous dire que pour aller de l'avant, en fait, comme on dit au Venezuela, on va devoir traverser ça, parce qu'on va devoir probablement aussi, en fait, avaler ou accepter des choses.
Des couleuvres. Encaisser,
ouais. Des couleuvres, voilà.
Des couleuvres.
Encaisser, voilà. Mais pour que ça se fasse de manière cohérente, en fait, imaginons, voilà, si on veut ouvrir de l'espoir, imaginons que cette loi d'amnistie ne soit pas la loi d'amnistie, que ce soit une loi d'amnistie. Imaginons qu'il y aurait, imaginons des processus dans lesquels on construirait.
Un premier pas.
Voilà, on pourrait imaginer quelque chose comme ça. On pourrait imaginer suffisamment de pression de la part de la population vénézuélienne pour que s'élargisse, en fait, ce qui vient d'être accepté. Pour que, en fait, on puisse construire, effectivement, une instance autonome qui traite, en fait, de cette bon, bref, de tout ce qu'on a vécu par le passé. Voilà, imaginons que c'est un processus et non pas qu'on est dans quelque chose qui est définitif et qui est ultime.
Ouais.
Tout à fait. Alors, je vais, voilà, on arrive vraiment à la dernière minute de l'émission. Peut-être juste pour terminer, rebondir, conclure sur cette question. À mon sens, ce qui est arrivé dans les dernières semaines a mis sur au devant, enfin, on va dire, de la scène, la question du judiciaire qui était complètement opacifiée auparavant, tant par d'ailleurs le système politique qui le maintenait dans un état de soumission, que aussi par le fait qu'on ne connaît pas, c'est très très opaque comme milieu. Et donc, bon, c'est peut-être ça aussi une des grandes avancées, on va dire, en tout cas de pouvoir te tourner et notamment de pouvoir, évidemment, je pense, il va falloir désigner à un moment donné des responsables. C'est pas juste de libérer des gens ou de dire bon bah voilà, ça n'est pas arrivé, on oublie, on pense les blessures. Oui. C'est aussi de pouvoir dire, de désigner des responsabilités. Et ça c'est très important pour qu'il y ait réconciliation nationale. Hein, on peut pas juste oublier, pardonner par, voilà, par effet de magnanimité. Donc voilà, ça c'est la dernière chose. Jojo.
Moi je tiens à rappeler que notre système politique vénézuélien est basé sur la démocratie participative. Carlos, je voulais te dire aussi, et on a changé de modèle politique en 99. Je tiens à préciser le changement de constitution. Avant, on avait une démocratie représentative. Carlos, maintenant, c'est la démocratie participative. Et c'est comme et tu viens de faire, nous appeler, parler, parler, en parler et continuer et faire, face aux démons.
Et ne pas complètement enterrer ce qui a été aussi ces 20 ans au Venezuela. C'est ça peut-être l'enjeu de la continuité de...
Et après, pour finir, il y a le pétrole, mais il y a el trabajo y la tierra. La tierra, el tío Simón Díaz lo decía, el campo es la solución. Revenons à la terre. Muchas gracias, Mila. Violette,
merci,
un plaisir.
Merci beaucoup.
On se retrouve
merci à vous d'avoir été présent, présente. On se quitte avec le morceau choisi par Violette de Augusto Braccio, est familial tuyo?
C'est ça, oui.
Ah.
Non, il l'est pas vraiment.
Ah,
mais chez moi, on l'appelle le Primo Braccio.
Ok.
Merci,
yo te recuerdo Caracas.
Bon,
salut Radio Galère.
Gracias, negra.
A très vite.
Mamaloa.
Ciao, ciao.
Merci.
Saludos, abuela.
Yo te recuerdo Caracas con la derrota en mis labios, a pesar de los calvarios, a pesar del vendaval, yo te contemplo, Caracas, con tu sonata de ocaso, refugiada en el desvelo, fantasía de un consuelo prometido. No sé por qué te espero, no sé por qué te añoro. Aurora de atabales, silencio en mi candil. Asumo que te quiero, asumo que te lloro. Oigo tu voz en la sombra, pero sé que te perdí. Espero y no sé por qué te añoro, aurora de atabales, silencio en mi candil. Asumo que te quiero, asumo que te lloro. oigo tu voz en la sombra, oigo tu voz.